Chapitre 24. Richard sonda soigneusement les ombres autour de lui, puis il se décida à aller voir les chevaux qu'Ishak avait trouvés pour lui. Le silence qui régnait dans l'écurie avait quelque chose d'angoissant. Se souvenant de la quiétude de l'auberge juste avant que le monstre défonce les cloisons, le sourcier trouvait logique d'être sur ses gardes. Comment déterminer si la créature ne rôdait pas dans les environs, prête à frapper ? Richard aurait aimé savoir comment combattre une bête de ce type, mais il n'en avait pas la moindre idée. Heureusement, il lui restait son épée et la magie qu'elle contenait. Il n'avait pas oublié les inhumaines promesses de souffrance et de tourment que le monstre avait laissées à son attention dans l'esprit de Kara. La simple évocation de ces horreurs lui donnait la nausée, les genoux soudain tremblants, il dut se tenir un instant à la paroi d'une stalle. Se retournant, il jeta un coup d'œil à Kara et se réjouit de la voir vivante et en bonne santé. La façon dont elle le regardait lui mettait du baume au cœur. Depuis qu'il l'avait guérie, leur lien s'était approfondi, car il avait un peu mieux découvert la femme cachée sous l'armure de la mort de Sith. À présent, il devait aider Kalan afin de la voir elle aussi vivante et en bonne santé. Deux chevaux étaient déjà scellés et prêts au départ. Les vivres étaient répartis sur les quatre autres. Quand Ishak promettait quelque chose, il n'y avait plus de souci à se faire. Dès qu'il fut entré dans la stalle, le sourcier tapota la croupe de la plus grande des deux juments, Bay. Un message d'amitié et, plus important encore, une façon de lui signaler qu'il y avait quelqu'un derrière elle. Avec tout ce qui s'était produit, sans parler de l'odeur du sang, les chevaux avaient les nerfs à vif et une ruade pouvait tuer net un homme s'il n'avait pas de chance. La jument ne parut pas apprécier l'intrusion d'un inconnu. Avant de prendre son arc pour l'accrocher à la selle, Richard gratouilla l'oreille de la bête et lui murmura quelques mots apaisants. Ravi, il constata que la jument se détendait à son contact. Lorsqu'il sortit de la stalle, Nietzsche l'attendait devant la porte, l'air perdu et solitaire.
« Tu seras prudent ? »
demanda-t-elle.
« Ne vous inquiétez pas. »
dit Kara en dépassant les deux jeunes gens. Alors qu'elle entrait dans la stalle et se dirigeait vers la plus petite des deux juments, elle ajouta
« Je lui ferai un long sermon sur ses actes irréfléchis de ce soir. »«
Quels actes irréfléchis ?» demanda Victor.
Kara caressa l'encolure de la jument puis se tourna vers le forgeron.
« Les Darans ont un dicton. Soyons l'acier qui affronte l'acier » et laissons le Seigneur Ral en découdre avec la magie. Le sens profond de cette phrase, c'est que le Seigneur Ral ne doit pas risquer sa vie lors de combats livrés avec des armes traditionnelles. Ses sujets peuvent s'en charger. En revanche, ils sont incapables de lutter contre la magie. Lui seul est en mesure de le faire, et pour ça, il doit être vivant. Nous le protégeons de l'acier, et en échange, il nous défend face à la magie. C'est son devoir, tel que l'a prévu le Créateur du lien.
Victor désigna l'épée du sourcier.
On dirait qu'il n'est pas manchot avec une lame.
Il lui arrive d'avoir de la chance,
corrigea Kara.
Dois-je vous rappeler qu'un simple carreau a failli le tuer? Sans une mort de Sith à ses côtés, il serait impuissant comme l'agneau qui vient de naître.
Voyant que Victor le dévisageait avec une sincère inquiétude, Richard roula de gros yeux. Ishak aussi regardait le sourcier comme s'il le voyait pour la première fois. Les deux hommes connaissaient depuis environ un an quelqu'un qui semblait être un banal travailleur. Un costaud qui chargeait des barres de fer dans un chariot d'Ishak pour les livrer à la forge de Victor. Il le croyait marié à Nietzsche et avait appris très récemment qu'il était en réalité son prisonnier. Désormais, il savait que Richard était le seigneur Ral, un légendaire combattant de la liberté venu du Nord. Mais cette idée continuait à les déconcerter, et ils préféraient voir leur ami sous les traits d'un ancien esclave de l'ordre révolté contre ses maîtres. Dès qu'on leur parlait du seigneur Ral, les deux amis de Richard devenaient nerveux, comme s'ils ne savaient plus comment se comporter devant lui. Alors que Kara finissait de ranger ses affaires dans les sacoches de sel, Nietzsche posa une main sur l'épaule d'Ishak.
« Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais voir Richard en privé. »«
Victor et moi allons vous attendre dehors. Nous avons pas mal de choses à nous dire de toute façon. »
Tandis que les deux hommes s'éloignaient, Nietzsche jeta un coup d'œil à Kara qui capta le message. Après avoir tapoté la croupe de sa monture, la mort de Sid sortit avec les deux hommes et ferma derrière elle les lourdes portes de l'écurie. Richard fut assez surpris de la voir s'en aller ainsi sans protester. Campé devant lui, les mains croisées, Nietzsche avait l'air plutôt mal à l'aise, trouva le sourcier.
« Richard, je m'inquiète pour toi, je devrais peut-être t'accompagner. »
« Ce soir, tu as mis en route une machination que tu es la seule à pouvoir mener jusqu'à son terme. »«
C'est exact, hélas. »
Une nouvelle fois, Richard se demanda quelle idée Nietzsche pouvait bien avoir derrière la tête. Mais il n'avait pas le temps d'approfondir le sujet. Si le sort de la magicienne le souciait, celui de Callan passait avant tout à ses yeux. Il était plus que temps de partir.
« Mais pourtant, »
commença Nietzsche, « dès que tu auras rempli ta mission ici, tu pourras me rejoindre. Avec ce sorcier nommé Chronos à la tête des Soudards, les citadins auront rudement besoin de ton aide. »«
Je sais. Crois-moi, j'ai bien l'intention de réduire à néant la menace qui pèse sur Alter Rang. Je ne traînerai pas et dès que ce sera fait, je me mettrai à ta recherche. »
Comprenant soudain le plan de Nietzsche, Richard eut l'impression que son sang se glaçait dans ses veines. Il eut envie d'implorer son ami de renoncer à cette folie, mais il se retint de justesse. Il avait lui aussi une mission périlleuse à accomplir. Pas question de s'entendre également dire que c'était beaucoup trop risqué. En outre, Nietzsche, une magicienne, savait parfaitement ce qu'elle faisait. Jadis, elle avait été une sœur de l'obscurité, et plus précisément une des six femmes devenues ses formatrices au palais des prophètes. Quand l'une d'elles avait tenté de le tuer pour lui voler son don, il avait réussi à l'abattre. Cette mort avait marqué le début de la fin pour le palais des prophètes. Jagang avait capturé les sœurs de l'obscurité survivantes, y compris Ulyssia, leur chef. Afin de sauver la vie de Callan, Richard avait autorisé cinq servantes du gardien à lui jurer fidélité, le seul moyen pour elle d'échapper à l'emprise de Jagang. Nietzsche ne faisait pas partie de ce groupe qui avait plus tard perdu un de ses membres dans la Slif. À part l'ancienne maîtresse de la mort, seules quatre magiciennes vendues aux gardiens n'étaient pas au service de l'empereur. Nietzsche était une adversaire terrifiante pour n'importe qui, y compris l'ordre impérial. Il fallait cependant espérer qu'elle n'avait pas imaginé un plan absurdement risqué pour pouvoir rejoindre plus vite son protégé. Se demandant ce qui allait suivre, Richard passa un pouce dans son ceinturon, histoire de se donner une contenance.
« Dès que tu pourras nous rejoindre, tu seras la bienvenue. Je te l'ai déjà dit. »«
J'ai pris note. »«
Tu veux un petit conseil ? Si puissante que tu te crois ou que tu sois, n'oublie jamais qu'un vulgaire carreau peut te tuer. »«
J'ai le même conseil à ton service, sorcier. »
Une idée traversa soudain l'esprit de Richard.
« Comment me trouveras-tu ? »
Nietzsche leva les bras, saisit le col de la chemise du sourcier et le força à baisser la tête vers elle.
« C'est pour ça que je voulais être seul avec toi. Pour te retrouver, je dois d'abord te toucher avec mon pouvoir. »
Richard fut aussitôt sur ses gardes.
« Pour lancer quel genre de sort ? » ?»«
Quelque chose qui ressemble au lien que tu as avec les Darans. » Mais l'heure n'est pas aux longues explications.
Richard se demanda pourquoi Nietzsche avait besoin d'être seul avec lui pour lancer un tel sortilège. Sans lâcher sa chemise, elle se pressa contre lui.
« Reste un peu tranquille. »
Nietzsche semblait soudain très bizarre, comme si elle glissait dans une profonde transe, ou comme si elle n'était pas totalement fière de ce qu'elle faisait. Richard aurait juré que la lumière des lampes était plus forte quelques instants auparavant. Désormais, une lueur orangée flottait dans l'écurie. La paille embaumait et l'air était agréablement tiède. Un instant, Richard se demanda s'il devait se fier à Nietzsche et la laisser faire. Après une profonde réflexion, il décida que oui. La main gauche de Nietzsche lâcha la chemise du sourcier, glissa sur son épaule et alla se plaquer contre sa nuque, la serrant assez fort pour le dissuader de bouger. L'inquiétude de Richard augmenta d'un cran. Soudain, il n'était plus sûr du tout de vouloir que Nietzsche continue. Pour avoir plusieurs fois senti le contact de sa magie, il savait que ce n'était pas une expérience agréable. Il aurait voulu reculer, pourtant il ne broncha pas. Nietzsche tendit le cou et l'embrassa sur la joue. C'était beaucoup plus qu'une simple bise. Autour de Richard, le monde sembla se dissoudre. Les stalles, l'air doux, le doux parfum de la paille, on eût dit que plus rien n'existait. Il ne restait plus que le lien avec Nietzsche, comme si elle était tout ce qui le retenait encore en ce monde. Et ce lien immergea Richard dans un univers de joie et de plaisir à couper le souffle. Il n'avait jamais rien éprouvé de pareil. Tout ce qui passait par ce lien, la vie et la chaleur de Nietzsche, mais aussi toute la beauté et la tendresse du monde, emplissait son esprit et lui donnait le tournis. Une ivresse merveilleuse dont il était sûr de ne jamais se lasser. Tout ce qu'il avait vécu d'agréable lui revenait à la mémoire. Les sensations se révélant 10 fois plus fortes qu'à l'origine, l'extase était si extraordinaire qu'il en oubliait jusqu'à son nom. Quand les lèvres de Nietzsche se séparèrent de sa joue, le monde réel reparut autour de lui. Mais il semblait plus beau qu'avant, avec des couleurs plus soutenues et des odeurs plus enivrantes. Dans un silence à peine troublé par le crépitement des lampes et les hennissements étouffés d'un cheval, Richard savoura un long moment le délicat baiser de Nietzsche. Ce contact avait-il duré quelques secondes ou plusieurs heures? Le sourcier aurait été incapable de le dire, parce qu'il s'agissait d'une magie qu'il ne connaissait pas. Ce pouvoir l'avait tellement secoué qu'il dut, pour recouvrer son souffle, ordonner à ses poumons de se remplir d'air. « Qu'as-tu fait ? » demanda-t-il à son ami. Nietzsche eut l'ombre d'un sourire et ses beaux yeux bleus brillèrent étrangement.
« Je t'ai marqué avec un peu de mon pouvoir, afin de te retrouver. Quand je localiserai ma magie, il me suffira de remonter la piste pour arriver jusqu'à toi, et ne crains rien, l'effet sera assez durable pour ce que nous entendons faire.
Je crois que tu ne me dis pas tout. » Le sourire de Nietzsche s'effaça. Très concentrée, elle chercha ses mots, et il comprit que ce qu'elle allait dire serait très important.
Jusque-là, je t'avais toujours fait mal avec mon pouvoir. Quand je t'ai capturé, lorsque je te retenais, et même quand je te guérissais, c'était toujours douloureux, tu le sais bien. Pardonne-moi, mais j'ai voulu t'offrir un contact avec ma magie qui ne te laisserait pas de mauvais souvenirs. Quelque chose qui ne te forcerait pas à me haïr.
Nietzsche détourna la tête pour ne plus croiser le regard de Richard.
J'ai voulu te donner une bonne impression de mon pouvoir, la mémoire fugitive d'une expérience plus ou moins agréable.
Richard préféra ne pas imaginer ce qu'aurait été la mémoire non fugitive d'une expérience radicalement agréable. Il prit le menton de son ami et la força à le regarder dans les yeux. Je ne te hais pas et tu le sais. Chaque fois que tu m'as soigné, c'était une façon de me redonner la vie et c'est tout ce qui compte. Ce fut au tour de Richard de détourner la tête. Il venait de s'aviser que Nietzsche était la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée, à part Callan.
Merci pour cette expérience, en tout cas, conclut-il, encore tout remué.
Nietzsche lui serra gentiment le bras.
Tu as très bien agi ce soir, dit-elle. J'ai pensé qu'une magie agréable t'aiderait à recouvrer des forces.
J'ai vu trop de gens souffrir et mourir. Cette petite fille ne devait pas être sacrifiée.
Je parlais de Kara, la façon dont tu l'as sauvée.
Eh bien, la grande fille ne devait pas être sacrifiée non plus.
Nietzsche sourit de cette plaisanterie.
Je vais devoir y aller, dit Richard en désignant les chevaux. Pendant qu'il vérifiait la sellerie et les harnais des 6 bêtes, Nietzsche alla ouvrir la porte. Kara entra dès que la magicienne l'y eut invitée. L'aube ne poindrait pas avant 2 ou 3 heures. Soudain, Richard s'avisa qu'il était épuisé. Rien d'étonnant après avoir tué avec son épée. Le sort de Nietzsche lui avait fait du bien, mais Kara et lui risquaient de ne pas avoir une vraie nuit de sommeil avant des jours. Un long chemin les attendait et il ne serait pas question de traîner. Avec des montures de rechange, ils pourraient avancer à un train d'enfer et ils n'avaient pas l'intention de s'en priver. Nietzsche tint le mort de la jument tandis que Richard glissait un pied dans l'étrier afin de se hisser en selle. La bête agitait la queue, impatiente de sortir de l'écurie, même en pleine nuit. Richard flatta l'encolure de sa monture pour la calmer. Dans les jours à venir, elle aurait tout loisir de lui montrer son enthousiasme. Une fois en selle, Cara se tourna vers son seigneur.
« Au fait, où allons-nous avec une telle hâte ? »
demanda-t-elle.
« Je dois voir Chota. »«
Chota ? »
s'écria la mort de Cite.
« Nous allons rencontrer une voyante. Auriez-vous perdu la tête, seigneur Rall ?»
Soudain décomposé, Nietzsche vint se placer à côté de la jument.
« C'est de la folie, Richard, et ça te servira à quoi ? Sans parler des troupes ennemies que tu rencontreras sur le chemin du Nouveau Monde.
Je n'ai pas le choix. Je crois que Chota m'aidera à retrouver Callan.
Mais c'est une voyante. Elle ne consentira sûrement pas à t'aider.
C'est faux, puisqu'elle l'a déjà fait par le passé. Elle nous a même offert un cadeau de mariage. Je pense qu'elle s'en souviendra.
Un cadeau de mariage ?
Répéta Kara.
C'est de la folie. Chota vous tuera à vue.
C'était bien possible, en effet. La relation de Richard avec la voyante était depuis toujours conflictuelle.
« Quel cadeau de mariage ?»
demanda Nietzsche, s'accrochant à la jambe du sourcier.
« De quoi parles-tu »
Chota souhaitait la mort de Callan, parce qu'elle avait peur que nous donnions naissance à un monstre, un inquisiteur détenteur du don. En gage de paix lors de notre mariage, elle a offert à Callan un collier composé d'une chaîne et d'une unique pierre noire, un artefact conçu pour empêcher ma femme de tomber enceinte. D'un commun accord, Callan et moi avons décidé d'utiliser ce présent, pour un temps en tout cas, en attendant que les choses aillent un peu mieux.
Alors que les carillons arpentaient le monde, toute magie était devenue inefficace. L'ignorant au début, Richard et Callan s'étaient fiés au collier. La jeune femme avait conçu un enfant. Mais les hommes qui l'avaient battu à mort une terrible nuit l'avaient privé du bonheur de le mettre au monde. Même si les carillons n'étaient plus là, il restait possible que cette défaillance provisoire de la magie ait irrévocablement altéré le monde. Ce processus risquait de conduire à l'extinction totale de la magie, une catastrophe que redoutait beaucoup Callan. Plusieurs séries d'événements pouvaient difficilement s'expliquer d'une autre façon. Zed appelait ça « l'effet en cascade ». Une fois commencé, un processus pareil ne pouvait plus être enrayé. Trop néophyte en la matière, Richard ne savait pas si la magie était oui ou non en train de disparaître, mais il pressentait que quelque chose clochait.
Chota se souviendra du collier, ou au moins de sa propre magie, un peu comme toi avec le sort qui te permettra de me retrouver.
Si quelqu'un peut se rappeler Callan, c'est bien Chota.
Nous avons eu de nombreux différends, c'est vrai. Mais il m'est arrivé aussi de l'aider. Elle a une dette envers moi et elle s'en acquittera.
Comme de juste, il s'agit d'un bijou porté par Callan et pas d'un objet que tu pourrais avoir sur toi.
Nietzsche ne cachait plus son agacement.
Ne vois-tu pas ce que tu fais? Une fois de plus, tu as inventé une histoire impossible à prouver. Tout ce que tu nous racontes est ainsi. Ce collier appartient à tes rêves. Richard, ta voyante ne se souviendra pas de Callan parce que Callan n'existe pas.
« Chota m'aidera, » insista Richard. « Je sais qu'elle le fera, et je ne vois aucun autre moyen d'obtenir des réponses. Le temps presse. Plus Callan reste avec ses ravisseurs, plus sa vie est en danger. Je dois aller voir Chota. »«
Et si tu te trompes? Si elle refuse de t'aider? » ?»«
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la convaincre. » »«
Richard, remets ton départ d'un jour ou deux. Nous parlerons et je t'aiderai à y voir plus clair. »
Richard talonna sa jument qui se mit aussitôt à avancer, entraînant les deux autres chevaux attachés au pommeau de sa selle.
« Voir Chota est ma meilleure chance de comprendre. J'y vais, un point c'est tout. »
Le sourcier baissa la tête pour franchir les larges portes. Le chant des cigales accueillit dès qu'il eut mis le nez dehors. Se retournant, il vit Nietzsche debout sur le seuil de l'écurie.
« Sois prudente, » dit-il. Si tu te fiches de ta vie, préserve-la au moins pour moi.
Cette saillie arracha un sourire à la magicienne.
À vos ordres, seigneur Rall.
Richard salua de la main Victor et Ishak.
Bon voyage,
lança Ishak en agitant son chapeau. Victor se plaqua martialement le poing sur le cœur.
« Reviens ici dès que tu le pourras, mon ami !»
Le sourcier promit qu'il n'y manquerait pas. Quand ils se furent un peu éloignés, Kara poussa un gros soupir.
« Je me demande pourquoi vous vous êtes embêté à me sauver la vie, Seigneur. Nous sommes condamnés, c'est sûr. »«
Je croyais que tu m'accompagnais pour me protéger. »
« Seigneur Ral, j'ignore si j'en serais capable face à une voyante. Je n'ai jamais affronté ce type de magie, et aucune mort de Sith n'a plus d'expérience que moi à ma connaissance. Le pouvoir des inquisitrices est mortel pour mes collègues et moi. Qui sait, il en va peut-être de même avec celui des voyantes. Je ferai de mon mieux, mais sachez que je ne peux rien vous garantir. »
« Je ne m'en fais pas pour ça, Kara. » dit Richard en serrant les genoux pour indiquer à sa monture de se lancer au galop.
« D'après ce que je sais de Shota, elle ne te laissera pas l'approcher de toute manière. »